chapitre 14. L'œil triste, Gabriel fixait le portrait de Julie imprimé sur un tract. Recherche jeune fille de 17 ans et demi, 1m63, corpulence mince, allure sportive, longs cheveux blonds foncés, yeux de couleur bleue. Elle porte un anneau en or à l'oreille droite et un pendentif argenté qui représente un livre autour du cou. Les livres. Elle les aimait tant. Surtout les romans policiers. Elle en lisait depuis l'âge de 13 ans, des tranches sombres accumulées dans la bibliothèque fabriquée par son père. Elle disait toujours qu'une enquête ressemblait à une partie d'échecs. Chaque adversaire tentait d'anticiper les coups de l'autre. Gabrielle se demanda ce qu'était devenue sa chambre. Corinne l'avait-elle gardée intacte, après toutes ces années, ou Paul l'avait-il convaincue de la vider de ses souvenirs? Comment s'était déroulé leur divorce? Dans la douleur et le déchirement de deux êtres détruits, sans doute. Difficile de faire une croix sur plus de 20 ans de vie commune. Impossible de surmonter l'abominable drame de la disparition de leur fille unique. Leur famille avait explosé pour toujours. Des tracts plus récents lui nouèrent le ventre. Des titres douloureux. Introuvables depuis 2008. 3 ans sans savoir. Vous seul pouvez nous aider. On avait informatiquement vieilli son portrait. Julie souriait toujours. Il fallait donner une image positive d'elle, susciter une empathie immédiate. À la lecture d'autres papiers, Gabriel découvrit l'existence d'une association portant le nom de sa fille, l'association Julie. Solène Pelletier, une collègue gendarme et marraine de Julie, en avait été la présidente, lui le trésorier. Corinne n'apparaissait nulle part. Gabriel se rappelait. Elle avait passé les premières semaines au lit, assommée d'antidépresseurs. Tout en lisant, il effleura le tatouage effacé de son avant-bras. Des notes dans un cahier indiquaient leurs actions, avec des dates. Gabriel imaginait son enquête à la brigade d'un côté et ses démarches personnelles de l'autre. Ne plus s'autoriser de temps libre afin de ne pas penser. Création de banderoles, de t-shirts, collages d'affiches dans les grandes surfaces, les relais d'autoroute, chaînes de solidarité par courrier, obtention de subventions. Une phrase écrite de sa main revenait comme un mantra au fil des pages. Quelque part, quelqu'un sait quelque chose. Les rendez-vous presse étaient méticuleusement répertoriés. Le Dauphiné Libéré, RTL, France 3. Une ligne téléphonique spéciale avait été créée pour quiconque aurait des renseignements à fournir. Gabriel testa le numéro en utilisant le téléphone de l'hôtel. Il n'existait plus. Le visage de Julie avait fait le tour de la France. Avec les membres de l'association, des amis de sa fille, des habitants de Saga Solidaire, ils étaient montés à Paris pour participer aux journées dédiées aux enfants disparus. 2008, 2009, 2010. Des listes d'adresses de parents vivant le même drame que lui s'étalaient sous ses yeux. Gabriel ne se souvenait de rien. Pas une silhouette, pas une image. Il ne savait même pas à quoi ce genre d'événement ressemblait. Il continua sa lecture. Rien en 2011, ni en 2012. D'après les notes sur des périodes de congé, Gabriel était allé à Londres, puis à Montréal, à la rencontre des membres de Missing Children. Des bilans rapportaient l'efficacité de cette association, une vraie machine de guerre, un modèle à suivre. Il fixa des imprimés bleus, tapissé de visages d'adolescents qui un jour s'étaient volatilisés. Des gamins du néant. Il en disparaissait des milliers chaque année. Au fil du temps, les actions s'étaient diluées. Sur les 108 membres des premiers jours, il n'en restait plus que 23 en 2011. Plus de presse, budget restreint, et les pages du cahier étaient progressivement devenues blanches. Gabriel imaginait le découragement, la fatigue, les vies personnelles qui reprenaient le dessus, le temps meurtrier qui avait soufflé les bougies de l'espoir. Ces bonnes âmes avaient invoqué leur droit à ne plus être confrontées à l'angoisse. Quelque part, quelqu'un sait quelque chose. Seulement des adverbes et des pronoms indéfinis. le résumé parfait de leur impuissance. Gabriel descendit sa bière avec tristesse. Leur combat avait été vain. Sa présence dans un hôtel à picoler en témoignait. Il s'attaqua au dossier. 682 actes de procédure sur presque 1000 pages, et c'était juste les 4 premières années d'enquête. Des descriptions minutieuses censées retracer jour après jour la progression des recherches. La cote C1 indiquait le lancement des investigations le 9 mars 2008 au matin. Gabriel se rappelait. Sa collègue Solène avait tapé la déclaration qu'il avait sous les yeux. À 8h30, le 9 mars 2008, les parents de Julie Moscato se présentent dans les bureaux de la brigade de gendarmerie de Saga. Ils n'ont pas eu de nouvelles de leur fille depuis la veille. Julie rentrait toujours en fin d'après-midi aux alentours de 17h après sa randonnée cycliste. Des recherches sont lancées en vue de collecter tout renseignement de nature à déterminer les raisons de cette disparition. Gabriel à la fois parent et gendarme, victime et enquêteur. Tout était tellement frais dans sa tête. Le vélo contre l'arbre, les traces de pneus, le ratissage des forêts et de la vallée. Son chef de l'époque avait tenté de l'écarter de l'enquête, en vain. Gabriel n'avait pas cédé, et son supérieur avait fini par lâcher. Des pages de PV reprenaient les interrogatoires des proches, des amis. La dernière à avoir vu Julie avait été Louise. Les filles avaient révisé leur cours le samedi matin dans la maison des Lacroix située en périphérie de Saga. Manger une quiche réchauffée au micro-ondes, puis Julie était partie avec son vélo à 14 heures. Elle s'était alors embarquée dans sa randonnée cycliste comme chaque mercredi, samedi et dimanche après-midi. Gabriel était à la brigade, Corinne chez un patient à 14 kilomètres de là. Même eux avaient dû justifier les endroits qu'ils avaient fréquentés. Lors des affaires de disparition, les parents étaient toujours les premiers suspects. Il tourna vite les pages pour arriver aux environs de la date où il avait débarqué dans cet établissement, la nuit du 9 au 10 avril 2008. Toutes les informations postérieures lui étaient inconnues et il fallait qu'il comble ce trou noir. Gabriel sentit un frisson le parcourir. Le 17 avril 2008, il avait mené une recherche par critères géographiques dans le FIJAISV, le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, en ciblant sur la région. Une identité était ressortie. Eddie Lecointre, 32 ans, un habitant du coin jugé pour tentative d'agression sexuelle en 1997 alors qu'il vivait à Chambéry. Une jeune femme avait refusé les avances de Lecointre dans un bar. Il l'avait suivie, abordée encore tandis qu'elle rentrait chez elle à pied. Elle avait haussé le ton, il l'avait menacée et poussée dans le hall d'un immeuble, lui plaquant la main sur la bouche. Jupe et chemisier arrachés, puis fuite lorsqu'un groupe de fêtards passant par là les avait vus. La police l'avait interpellée sans difficulté à son domicile. Après 3 ans de tôle, l'individu avait quitté Chambéry pour Orniac, à 10 kilomètres de Saga. Il avait d'abord bossé à la centrale hydroélectrique du lac Miroir, puis avait été embauché à l'hôtel de la Falaise comme agent d'entretien. Gabriel imaginait sans mal son excitation lors de cette découverte. Cette même lave le submergeait en ce moment même. Les gendarmes, et lui le premier, avaient dû se jeter sur cet homme comme des tiques sur un chien. Lecointre connaissait Julie, ils avaient sans doute bossé ensemble à l'hôtel, ou s'étaient au moins croisés dans les couloirs. Sa maison avait été perquisitionnée le 20 avril 2008. Gabriel dévora les rapports. Malgré une enquête minutieuse, aucun lien n'avait pu être établi entre Lecointre et la disparition de Julie. Les analyses de ses appels téléphoniques et de ses mails n'avaient rien révélé de suspect. Aucun client ne s'était jamais plaint d'un écart de comportement à son égard. D'après la note, il avait travaillé jusqu'à 20 heures le jour du drame. Il ne pouvait pas avoir kidnappé Julie. Il avança dans son exploration. Auditions répétitives, récapitulatifs, synthèses, rapports d'expertise, des témoignages, des « filles mignonnes et plutôt agréables » ou des « le genre de nana qui se la pétait parfois » égrenaient les procès-verbaux. Ses professeurs la qualifiaient de bonne élève, même si elle avait fait un premier trimestre de terminale après l'été 2007, largement en deçà de ses capacités. Il signalait tout de même qu'avant le drame, elle était remontée 5e de sa classe. Le dossier mettait Julie à nu, sous tous les angles, par la voix de ceux qu'il avait un jour côtoyés. D'acte en acte, des centaines de vérifications, longues, laborieuses, noircissaient le papier. Tous les emplois du temps des détenus ayant quitté la maison d'arrêt au moment des faits avaient été vérifiés. Des mois et des mois de procédures pour aboutir à une impasse. Les mignonnettes de whisky et sa bière commençaient à lui chauffer la tête. Gabriel fit défiler les pages avec deux objectifs. Trouver quelque chose à propos de la Ford grise dont avait parlé Paul et dénicher la raison de son retour à l'hôtel à l'automne 2008. Il retrouva la première trace du véhicule au 23 mai 2008. Les enregistrements de vidéosurveillance de la sortie du péage de l'autoroute A40 à 10 km de Saga, datant des 7 et 8 mars, avaient été consultés par son service 2 mois et demi après l'enlèvement. Le jour de la disparition, la Ford grise franchissait le péage à 14h48 dans un sens, direction Saga, et à 17h57 dans l'autre, direction Lyon. La voiture portait une fausse plaque d'immatriculation. Son conducteur avait réglé en liquide au péage. Gabriel observa la photo de qualité médiocre jointe au dossier. Sa main tremblait. On voyait le véhicule en contre-plongée, sans possibilité de discerner quoi que ce soit derrière le pare-brise. Fausse plaque, aller-retour éclair, vitre teintée. Il n'eut aucun doute. Son ou ses occupants avaient kidnappé sa fille. Il finit sa bière d'un trait. À genoux, avec des gestes vifs, Gabriel étala les feuillets sur le sol, forma des paquets, parcourut d'un coup d'œil les pages une à une et rassembla celles concernant la Ford grise. Signalement, avis de recherche lancé dans toute la France, mais trop tard. Le 8 mars, la traque s'arrêtait net au péage de Lyon. Les gendarmes avaient eu droit à leur lot d'appels et de témoignages erronés. Autant de fausses pistes à traiter, autant d'espoirs brisés. Jusqu'au 9 juillet 2012, 500 pages plus loin. Après 4 ans, la même Ford grise avait été découverte brûlée dans un champ aux alentours de Lille. Là encore, la plaque n'était pas référencée. À la place de la roue de secours, sous le tapis de coffre, avaient été entassées 3 autres fausses plaques d'immatriculation, dont celle aperçue sur les caméras de surveillance en 2008. C'est ainsi que des liens avec leur affaire avaient pu être établis. D'après le PV dressé par les Lillois, les auteurs des faits avaient été appréhendés grâce à une trace papillaire restée exploitable sur le coffre. Il s'agissait de 2 jeunes roubaisiens, déjà fichés, qui expliquaient avoir volé la voiture en plein jour sur le parking d'une zone commerciale d'Ixelles, une commune belge jouxtant Bruxelles. La voiture du kidnappeur de Julie, volée en Belgique, puis brûlée en France par 2 zonards. Gabriel songea aux propos de Paul. D'après son ancien collègue, il avait déserté Saga pour aller habiter dans le Nord. Il imagina son état de l'époque. 4 ans d'enquête sans la moindre trace, le désespoir, puis ce sursaut bienvenu. Avait-il sillonné Ixelles et les alentours de la capitale belge, seul, sans son képi de gendarme, pour mettre la main sur le propriétaire du véhicule? Ou au contraire, avait-il tout abandonné pour s'enfoncer dans la dépression et se laisser crever à petit feu, loin de Saga et de ses fichues montagnes? 2h30 du matin. Les feuilles dansaient autour de lui, sa tête tournait. Gabriel allait et venait dans la pièce, la photo de la Ford dans la main. Il essaya d'imaginer un scénario. L'auto avait quitté puis emprunté l'autoroute à 3 heures d'intervalle. Cet après-midi-là, Julie dévalait à vélo les pentes de la forêt. Elle avait ses habitudes, son point de départ et d'arrivée était toujours le même. Le parking dans la montée vers Albion. Au moment où elle s'apprêtait à regagner la route, on l'avait enlevée. Peut-être le chauffeur de la Ford grise s'était-il avancé dans les bois. Il avait contraint Julie de s'arrêter. « Mademoiselle, s'il vous plaît, un renseignement. » Julie avait brusquement freiné et posé son vélo contre un arbre. L'individu l'avait entraîné vers son véhicule de force, où il avait réussi à la convaincre de le suivre. Gabriel imaginait la terreur de sa fille. La porte coulissante s'était refermée, la plongeant dans l'inconnu. Avait-elle été frappée, assommée? Avait-elle hurlé à l'aide? Papa, aide-moi. J'ai besoin de toi. Il n'avait pas été là. Il s'accroupit et s'agrippa au paquet de feuilles. Impossible de lire. Il était épuisé. Il se hissa sur le lit et s'écrasa sur le matelas un tract dans la main. Julie lui souriait, les doigts sur son pendentif en forme de livre. Il aurait pu passer plus de temps avec elle, à l'époque où tout allait bien. Faire davantage de vélo en sa compagnie, profiter de sa présence chaque jour, lui dire qu'il l'aimait. Il ne l'avait jamais fait. Gabriel avait promis de la retrouver, mais 12 ans après, il revenait à la case départ dans cette sinistre chambre d'hôtel. Son amnésie était peut-être là pour lui signifier à quel point il avait lamentablement échoué.